Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir de rencontrer Jean-Paul Bettebèze. Jean-Paul Bettebèze, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître chez PUF un nouvel ouvrage, car vous êtes un auteur prolifique. Crise, une chance pour la France. 15 euros, 187 pages. Alors, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes économiste universitaire. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique. Et vous êtes membre du comité exécutif d'un grand groupe bancaire international qui est plutôt vert, le Crédit Agricole. Donc vous avez partagé votre carrière entre l'université et le secteur opérationnel, la banque. Vous avez été directeur du Crédit Lyonnais, directeur d'études économiques du Crédit Lyonnais à une époque. Alors on vous connaît bien sûr comme auteur et généralement vos ouvrages sont non seulement remarqués, mais généralement un peu décalés par rapport au consensus. Vous êtes en train de nous en donner une nouvelle preuve, même si vous mettez un point d'interrogation, une chance pour la France, point d'interrogation. Alors, en quelques mots, au moins de synthèse, avant qu'on revienne un peu plus dans le détail, vous y croyez donc à cette chance pour la France ?
Oui, écoutez, la France est un pays très intelligent, dans la mesure où chaque fois qu'il faut bouger, chaque fois qu'il faut réformer, les Français, c'est-à-dire nous-mêmes, trouvons toute une série de raisons pour ne pas faire. Et alors, bien entendu, quand ça va bien, il ne faut pas changer puisque ça va bien. Et quand ça ne va pas bien, il ne faut pas changer puisque ça ne va pas bien. Avec cette situation-là, on n'en sortira jamais. Et je me dis, effectivement, vous avez raison, j'ai mis un point d'interrogation pour essayer de
nuancer,
un peu le propos. Mais au fond, dans une situation de crise de cette ampleur, si on ne se dit pas que c'est une bonne... bon moment pour se dire est-ce qu'il faut continuer comme on l'a fait, est-ce qu'il faut changer les choses, est-ce qu'il faut se rapprocher davantage de nos amis allemands, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour les entreprises, est-ce qu'il ne faut pas le faire plus aujourd'hui que jamais. Eh bien, je pense que c'est effectivement une occasion. C'est quand ça tremble comme ça que l'on peut se dire il y a des choses importantes, très importantes, et d'autres qui sont moins importantes.
Alors, on peut peut-être commencer par les menaces, comme vous le souhaitez. De toute façon, il faudra passer sur les deux. Les handicaps, peut-être, d'abord, de la France par rapport à cette situation, cette crise.
Les handicaps, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne sommes pas préparés. Je crois que le handicap principal, c'est que nous ne sommes pas préparés. Nous n'y sommes pas préparés individuellement et nous ne sommes pas préparés collectivement. Nous n'y sommes pas préparés individuellement parce que la France est un pays agréable, très sympathique, dans lequel on vit très bien. Et donc se dire qu'il faut faire des efforts, il faut changer, il faut se restructurer, il faut revoir la taille des régions, l'importance des départements, la façon d'organiser les facultés, tout ceci au fond nous embête un peu parce que nous sommes bien comme nous sommes. Donc ça, nous ne sommes pas donc préparés individuellement. Nos entreprises, de ce point de vue-là, non plus ne sont pas préparées. Et nous avons en France des grandes, très grandes boîtes et des petites entreprises, petites, trop petites. Et nous n'avons pas de milieu. Il n'y a pas d'entreprise du milieu à 500 personnes, 1000 personnes. Enfin, il y en a, bien sûr, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis, bien sûr, et beaucoup moins que chez nos voisins allemands. Et donc, d'une certaine manière, nous ne sommes pas tout à fait préparés dans nos têtes, pas tout à fait préparés dans nos territoires, pas tout à fait préparés dans nos entreprises. Face à ça, l'Europe n'est pas non plus très préparée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est compliqué.
Qui est en devenir d'ailleurs.
Qui est en devenir, mais enfin c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment, quand on est européen, comme je me permets de l'être, avoir une foi chevillée au corps, tout simplement parce que c'est pas facile, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a toute une série d'enjeux, donc il faut une patience folle et surtout une volonté de faire.
Comment vous expliquer, puisqu'on parle de l'Europe, on peut faire un détour par l'Europe, cette atonie, notamment dans la campagne, enfin, est-ce que c'est simplement un retard à l'allumage, mais ça semble intéresser personne.
Honnêtement, c'est parce qu'on aime bien s'occuper de ce qu'on croit important. Dans un choc pareil, qui est un choc global. Les bons partenaires, c'est le G20. La façon de fonctionner, c'est l'Europe. Et la façon de fonctionner étant français, c'est de renforcer le poids de la France dans l'Europe. Mais ceci nous paraît un peu lointain et donc on préfère dire que c'est la faute au fond au président de la République. On aime ou on n'aime pas, comme si c'était le sujet. Et donc par rapport à des crises qui sont assez globales, on essaie de régionaliser nos problèmes ou de territorialiser nos problèmes. Ce n'est pas ça. Hein. Le président Sarkozy, on aime ou on n'aime pas, mais ce n'est pas lui qui est l'inventeur du subprime. Ce n'est pas lui c'est lui au contraire qui a plutôt aidé à ce que la crise soit... plutôt géré en Europe et que on fonctionne assez bien en Europe par rapport au G20. Et n'oubliez pas qu'il y a encore quelques mois, nos amis américains disaient le problème majeur, c'est la relance, le soutien à l'activité économique. Et vous, Européens, vous voulez des règles, etc. On a bien vu qu'il vaut mieux avoir des règles plutôt que de se relancer à corps perdu dans des difficultés. Donc, ce qui nous embête un peu dans le contexte européen, qui est votre sujet, c'est qu'au fond, on aimerait bien avoir la possibilité de faire. Et si c'était la faute du président de la République, ça nous arrangerait bien, au fond. Simplement, nous sommes dans des structures beaucoup plus complexes où il s'agit de peser en tant que France, directement et indirectement. Et ceci, d'une certaine manière, ça nous arrange un peu moins bien que d'habitude.
Vous soulignez les handicaps structurels, économiques, financiers, mais vous trouvez aussi que le politique a son poids. Je vous lis dans votre introduction, vous dites ceci, je trouve ce qui manque encore une fois, la qualité de votre plume. Notre recherche du temps perdu de la non-réforme a même un nom, alternance, la combinaison des contraires. Il suffit de fragiliser les élus, puis un jour ils laissent la place à d'autres, avec un peu plus de dette publique à la clé, et ainsi de suite.
Oui, et c'est de plus en plus vrai cela. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour essayer de gérer ce pays, tout simplement parce qu'il a un art extraordinaire de gagner du temps par rapport au changement. Donc il faut, d'une certaine manière, le brutaliser. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et au fond, c'est bien nécessaire. Et les périodes où la France a été brutalisée ont été très réduites. Il y a eu De Gaulle, il y a eu un début de Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu quelques semaines de Juppé. Mais autrement, au fond, on est un pays assez conservateur dans notre façon de fonctionner. Et comme le monde bouge autour de nous, eh bien, on prend chaque fois des difficultés de fonctionnement. Et les signaux du fait que l'on ne va pas bien sont de deux natures. Un, le commerce extérieur. Et le fait que l'on a des résultats négatifs de commerce extérieur veut dire que l'on ne s'implante pas dans le monde qui change. Et la deuxième, qui est d'ailleurs la conséquence, c'est notre déficit budgétaire, c'est-à-dire le fait que l'on a de la dette, de la dette, de la dette. Et quand on est de moins en moins présent au monde dans les produits que nous faisons, et donc on a de plus en plus de difficultés à s'étendre, à se développer, et donc au fond, on reporte dans le temps, avec la dette, nos difficultés, à ce moment-là, voilà nos symptômes. Mais bien entendu, au lieu de dire « c'est un peu notre faute, c'est un peu à nous de faire des choses », on préfère dire que c'est le monde qui ne va pas bien, le capitalisme qui est en crise, les Américains qui ne sont pas gentils, ou nos amis allemands qui ne sont pas compréhensibles. Grosso modo, nous avons une vision assez française dans laquelle nous sommes les moins fautifs de tout.
Oui. Alors c'est ce que vous dites, je lis aussi un de vos passages. Tantôt l'économie avance et la politique freine, cas le plus fréquent, tantôt c'est l'inverse. Vivons-nous aujourd'hui une accélération du politique pour remplir notre retard de réforme? Point d'interrogation. Peut-être, mais le pari est risqué, sans doute, mais il n'y a pas d'autre solution. Nous avons tant tardé et l'économie se porte mal. Donc c'est ce que vous venez de souligner.
C'est encore plus vrai depuis que je l'ai...
depuis que vous l'avez écrit.
Malheureusement, c'est encore plus vrai depuis que je l'ai écrit. Nous avons une crise qui est en train d'être vraiment inquiétante. On peut penser qu'elle est à son point le plus bas, mais quand même, elle va laisser des traces. Elle va laisser des traces en termes de croissance et en termes d'emploi. Et on voit bien ce qui paye. Ce qui paye, ce sont les PME à l'heure actuelle en France, c'est-à-dire des territoires qui sont désemparés ou seront désemparés pour assurer une relance. Les grandes boîtes du CAC 40, au fond, elles sont habituées à vivre sur plusieurs pays, plusieurs territoires. Elles peuvent prendre des chocs. Quand vous avez une entreprise qui est sous-traitante ou sous-traitante de sous-traitante d'automobile, elle ne fait pas grand-chose d'autre. Quand vous avez une entreprise qui fait des meubles dans la région des Landes et qu'elle a des difficultés, vous ne pouvez pas lui dire « Tiens, vous allez faire des fusées électroniques, vous allez faire de l'électronique, etc. » Donc il y a, si vous voulez, dans les territoires que nous avons, des entreprises de taille petite et moyenne qui sont évidemment aujourd'hui très menacées. Et c'est bien elles, à mon avis, qui sont les plus importantes pour assurer le rebond économique. Donc, il y a effectivement à faire des choses pour les grandes entreprises, clairement, mais fondamentalement pour les PME et les territoires.
D'accord. Ben, les PME, alors, vous devez applaudir des deux mains la médiation du crédit, puisqu'il se dit souvent dans les médias que les banques portent une responsabilité forte en la matière. Dieu merci, ce n'est pas ce que dit René Ricol. Mais il y a un peu cette idée que si notre appareil productif, et en particulier des petites et moyennes entreprises, ne répond pas aux attentes, c'est parce que les méchants banquiers serrent un peu trop la corde pour les pendre.
Oui, on connaît cette vieille histoire. Elle a une caractéristique, c'est qu'elle n'est pas très vraie. Ce qui se passe, c'est que j'ai écrit dans d'autres temps avec Christian Saint-Etienne, un rapport sur les PME. Et auparavant, j'avais écrit, mais tout seul, un rapport sur le problème du financement de la recherche. Une des caractéristiques de nos entreprises, de taille petite et moyenne, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissements en recherche et en développement. Et ce qui explique le fait qu'il y a ce problème de taille, ce problème d'investissement, ce problème d'innovation, ce problème de risque, c'est fondamentalement le fait qu'elles ne gagnent pas assez d'argent. Et quand vous avez des entreprises de taille petite et moyenne qui gagnent un tiers de moins minimum que leurs concurrentes allemandes, elles peuvent se développer plus difficilement, elles sont plus risquées. Et à ce moment-là, bien entendu, les banquiers font plus attention. Et donc, au fond, ce n'est pas parce que les banquiers français seront timides ou frileux, c'est parce que la rentabilité de la PME française est trop faible, trop fragile. Et pourquoi est-ce qu'elle est trop faible, trop fragile? Tout simplement parce que l'on a un appareil de protection, un appareil de protection sociale qui est coûteux pour des entreprises de taille petite et moyenne. On a un appareil d'entourage des entreprises qui est fragile. Par exemple, la coopération à l'intérieur des territoires est insuffisante avec les écoles, avec les IUT, avec les lycées professionnels, avec les universités, bien sûr, et avec les écoles d'ingénieurs. Donc, au fond, quand on est une petite et moyenne entreprise, on est assez perdu, assez isolé. On est entouré par le fisc, ça c'est clair. On est entouré par les vérifications, ça c'est clair. Mais on n'est pas entouré par un territoire qui comprend à quel point vous devez vous développer. C'est pour ça que la taille moyenne de nos boîtes, en particulier des PME, et la moitié des Allemandes. Ce qui fait que nos entreprises petites et moyennes sont moins capitalisées, moins fortes, moins résistantes.
Et ne sont pas organisées surtout pour se tourner vers l'export, enfin en tout cas beaucoup moins que peuvent le faire les entreprises allemandes. Et j'hésite à vous poser une dernière question sur les faiblesses, parce qu'on va finir par croire que de chance il n'y en a pas. Mais je ne peux m'empêcher quand même de vous lire encore une dernière fois. La France est un grand corps malade qui contemple avec délices. Elle se perd dans la grande bataille internationale, victime de nos mécanismes. La retraite à 60 ans, les 35 heures, la relance par la consommation.
Mais oui, mais effectivement,
la relance par la consommation, il faut peut-être en dire un mot.
Mais effectivement, la France est un pays qui a quelques difficultés pour comprendre l'économie. C'est tout bête, mais dire qu'il faut produire avant de consommer, ça ne paraît pas génial. Hein, mais bon, dire qu'il faut essayer de produire, prendre des risques, et puis on verra après ce qui se passe, bon, ça ne me paraît pas une innovation totale. Mais en France, c'est quand même le seul pays qui a dit, eh bien, nous allons essayer de voir comment on pourrait augmenter les salaires pour faire repartir la machine économique, sachant que l'on est déjà déficitaire en commerce extérieur. Et donc, si vous faites ça, sachant qu'en plus, vous avez des PME, vous êtes en train de les fragiliser encore plus. Bon, ceci apparaît évident, mais bon, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que les 35 heures ont quand même alourdi le coût du travail, en particulier dans les PME, qui ont eu les plus de difficultés à résister à ce choc que d'autres. Et donc, tout ceci apparaît évident. Si le monde se développe, en moyenne à 3 ou 4% l'an. Donc, si dans ce monde-là, vous organisez un pays qui réduit sa production, qui fait partir les gens plutôt en retraite et qui, quand ils ne sont pas en retraite, partent un peu plus tôt en week-end, il ne faut pas s'étonner, que votre part de marché mondiale ne se cesse.
La maison France baisse.
Mais bien sûr. Écoutez, en moyenne, on a une croissance de l'économie qui est la moitié de celle de l'économie mondiale. Et donc, il est clair que ceux qui résistent sont héroïques. C'est beaucoup plus difficile d'être patron en France qu'ailleurs.
Et donc justement, vous pointez du doigt l'inculture économique française, d'où la nécessité, qui est probablement une des causes de résistance au changement première. D'où la nécessité de la pédagogie économique, ce qui me permet de rappeler au passage que vous êtes vous-même un grand pédagogue, puisque vous avez été lauréat du grand prix d'honneur du prix Turcot pour l'ensemble de votre œuvre. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans ce domaine encore beaucoup à faire et comment peut-être, enfin, puisque vous êtes universitaire.
Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en se rapprochant du terrain, en se rapprochant des PME, en se rapprochant des entreprises, en se rapprochant des lycées, des écoles, pour leur dire voilà comment les choses se passent autour de vous. Vous pouvez faire de l'économie compliquée, mais vous pouvez expliquer aussi que le week-end, quand vous allez au marché, vous avez des gens qui vendent des salades et des radis, et donc ils ont dû acheter les salades et les radis, ils ont pris un risque sur la façon d'acheter leur salade et leur radis, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont vendre, ils ne connaissent pas les marges. Et donc on peut faire de l'explication économique simple, et les gens voient bien ce que c'est que le risque, voient bien ce que c'est que le profit, et voient bien qu'il y a un lien entre le profit et le risque. Alors, si vous voulez, on peut faire toujours plus compliqué, histoire de faire en sorte que personne ne comprenne. Mais honnêtement, le fait qu'il n'y a pas de culture économique, c'est d'une certaine manière, plus profondément chez nous, une espèce de refus du réel. On n'est pas plus bête, bien entendu, mais la réalité nous donne des choses, nous dit, écoutez, voilà ce qui se passe, et c'est partout comme ça. Il se trouve que les lois économiques ne sont pas des lois françaises, ce sont des lois mondiales. Et que quand vous essayez de vous en sortir, regardez ce qui s'est passé avec les pays socialistes, ça n'a jamais réussi. Donc, peut-être qu'on pourra trouver une invention nouvelle, une façon de faire de l'économie nouvelle, mais en moyenne, il vaut mieux que des gens s'associent, il vaut mieux que des gens se regroupent, il vaut mieux que des gens innovent, il vaut mieux que des gens prennent des risques, il vaut mieux que les gens partagent les résultats, il vaut mieux qu'ils aient des banques à proximité, il vaut mieux également qu'ils convainquent des clients qui sont libres d'acheter ou pas acheter. Voilà ceci. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait une innovation totale en disant ceci. Mais en France, c'est compliqué. Et en France, on aime bien politiser l'économie. Au lieu de dire ben, il faut aider les PME, etc., on vous dit ah, est-ce que vous croyez qu'il faut réunir les chambres de commerce? Est-ce que vous voulez qu'il faut réunir les départements? Est-ce que vous croyez qu'il... Non, non, faisons d'abord de l'économie et on verra ce qui se passe. Quand vous faites un livre dans lequel vous dites ah, il faudrait que, je ne sais pas moi, par exemple, le nombre de postes au FMI change, vous passionnez les gens. Mais ce n'est pas ça qui fait la croissance du tout. Du tout. Donc on a un goût immodéré pour l'abstrait qui rapproche un goût immodéré pour la non-action.
Oui. Alors, quittons, selon votre expression, le folklore du village gaulois pour enfin arriver à ce qui pourrait être les territoires d'une chance française dans le contexte de la crise économique et financière. Alors, la première que vous pointez du doigt, ou en tout cas celle que j'ai repérée de principale, mais ce n'est certainement pas la seule, c'est que nous avons un avantage dans le green business. Alors, c'est quoi ?
Écoutez, c'est l'agriculture. Le monde qui va arriver va avoir une couleur dominante qui est le vert. Hein.
Comme le Crédit Agricole.
Comme le Crédit Agricole, comme les pâturages.
et la France profonde.
Et, oui, mais c'est une France qui est efficace, ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il va y avoir des milliards de gens à nourrir, on voit bien qu'il va y avoir des gens sur soutien de leur santé, il va y avoir donc toute une série de nouveaux secteurs de croissance qui vont se développer. Il va y avoir de plus en plus de gens à nourrir, il va falloir faire attention à les nourrir bien, il va falloir les soigner, il va falloir faire en sorte que l'eau soit bien traité, que l'énergie soit bien gérée. Et donc, nous avons derrière ce que j'appellerais le vert, une façon de nous développer, de nous étendre qui est absolument fantastique. Et donc, toute une économie où on a une expertise sur le vert, une expertise sur la façon de fonctionner, une image de marque sur la nourriture, plus des techniques sur l'eau, des techniques sur les déchets, des techniques, etc. Tout ceci fabrique un ensemble de secteurs pour lesquels on peut être extrêmement puissant. Et donc j'ai fait tout un chapitre sur ce que j'appellerais les couleurs de la France, mais je pense qu'effectivement, ou bien on dit tout est perdu, tout est fini, à ce moment-là il faut boire et arrêter toute activité et puis aller à la cave et puis tout finir, bon.
Ou alors on se dit jusqu'à la lie.
Voilà, oui, ou alors on se dit, mais non, c'est pas possible. Des pays et des économies de cette importance, la cinquième ou la sixième économie du monde, ça ne finit pas, ça ne s'arrête pas. Bon, il faut changer, bien sûr, il faut s'associer, bien sûr, il faut s'allier, bien sûr. Mais en même temps, nous avons des ingénieurs, nous avons des savoir-faire, nous avons des secteurs. Et on a au moins une dizaine de secteurs qui sont des secteurs dominants des nouvelles aspirations mondiales. Pourquoi ne pas en profiter ? Il y en a un qui n'est pas trop connu, qui s'appelle la logistique. numérique. C'est une façon d'organiser des entreprises. Bon, et la France est un très grand pays de la distribution, de la grande distribution, mais également de la distribution par correspondance. On voit bien des très grands systèmes logistiques qui se mettent en place. On a une expertise que l'on peut exporter. C'est très efficace, c'est très rapide, c'est très écologique. Pourquoi ne pas développer ça ? Donc, il y a non seulement le vert, non seulement l'organisation de la santé, mais également l'organisation de l'espace pour lesquels nous sommes très bons. Donc on a toute une série d'atouts à faire valoir. Encore faut-il que les gens qui s'en occupent, c'est-à-dire les patrons d'entreprises et les PME, ne soient pas asphyxiés par le reste.
Tout à fait. Mais, et là, vous pensez que dans le contexte européen, la structure européenne de l'Union est un levier, une forme de levier pour mettre en avant ces atouts, ou est-ce que c'est plutôt un frein? Enfin,
c'est un levier si vous êtes assez fort. Et si vous n'êtes pas assez fort, vous prenez le levier dans la tête, ça c'est clair. C'est pour ça, par exemple, que le rapport avec l'Allemagne est décisif. C'est pour ça, vous le voyez également, que se rapprocher d'un troisième pays qui serait l'Espagne est une bonne chose. Peut-être qu'il y aurait un quatrième. Et on voit bien que tous les pays européens n'ont pas la même taille, tous les pays européens n'ont pas le même engagement politique, social, européen. Et nous sommes très proches de l'Allemagne, très proches de l'Espagne, très proches de l'Italie. Et donc fabriquer, et puis très proches au fond de ce noyau fondateur. Bon. Faire en sorte que l'Europe ait plusieurs vitesses, ça ne m'embête pas. La France elle-même a plusieurs vitesses. Tous les pays ont plusieurs vitesses. Les personnes ont plusieurs vitesses. Donc, dans leur vie, dans la façon de fonctionner. Et donc, l'idée de faire en sorte que l'Europe ait plusieurs vitesses, ça m'arrange plutôt que d'avoir une vitesse, celle de la complexité de nos papiers, de nos documents et de nos directives. Et pour fabriquer, faire en sorte que l'Europe aille plus vite, il faut que le noyau fondateur, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, et puis maintenant, je pense, l'Espagne, continue et donne en quelque sorte des impulsions. Quand vous avez l'Allemagne, vous avez une vision plutôt vers l'Est. Quand vous avez l'Espagne avec la France, vous avez une vision plutôt vers le Sud. Et on voit bien à quel point la France, l'Europe doit se développer. En même temps, je suis assez d'accord avec ça, dire quand est-ce qu'elle s'arrête. Une puissance sans limite, sans frontières, est quelque chose qui s'épuise. Mais en même temps, il faut que l'Europe dise nous sommes une puissance économique. Et cette puissance économique, elle doit se développer, avoir des logiques internes et puis en même temps discuter à l'extérieur de manière assez virile, si vous me permettez. Et on voit bien, par exemple, dans le dernier cas, ce qui se passait la semaine dernière avec nos amis américains, à quel point, un, ils ont fait quelques bêtises financières, je pense que ça n'a échappé à personne. Ils disent, voilà à peu près combien ça va coûter, et ils essaient de nous refiler une partie du coût du bébé. Et le fait de...
Et là, vous dites que l'Europe n'est pas assez en franc, n'a pas un franc uni.
Elle n'est pas assez organisée.
Pour répondre à...
Honnêtement, le semestre précédent, en période de crise, heureusement qu'il y avait le président Sarkozy qui a fonctionné en très bonne intelligence avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, pour éviter quelque chose qui aurait pu être catastrophique. Donc on voit, sur l'Europe ne se fabrique pas avec un homme seul ou avec un pays seul. Elle doit se fabriquer avec 3 ou 4 pays qui soient assez solides et assez puissants pour résister à des chocs. On voit bien à quel point il faut renforcer l'Union européenne pour lui permettre d'exister. Autrement, ce sera un ventre mou de consommation, la consommation des produits fabriqués par les autres.
Et vous pensez que l'euro est un ciment monétaire qui probablement a montré dans le paroxysme de la crise une capacité de résistance pour l'ensemble des membres de l'Union. Mais est-ce que cet euro n'a pas aussi des points de grande fragilité, en sachant que en fait, ce qui est adossé à l'euro, c'est aussi la Banque Centrale Européenne, et qui elle-même ne fait qu'agréger des banques centrales nationales. Donc on n'a pas encore été jusqu'au bout de l'union monétaire. On rentre dans une zone de grande turbulence, notamment avec des risques probablement de stratégie de défense monétaire du côté des États-Unis. Est-ce que ces bases d'une Europe politique sont bien solides?
Vous disiez la Banque Centrale Européenne agrège. Non. La Banque Centrale Européenne est le seul élément fédéral du système européen, puisqu'on a une monnaie unique. Simplement, il est clair qu'il peut y avoir, et il y a, des sensibilités nationales qui s'expriment dans cette organisation fédérale. Et le deuxième élément, tout à l'heure vous le disiez, c'est que l'euro, ça protège et ça vous embête. Parce qu'il fut un temps, où la dévaluation des monnaies, c'était un outil facile. Je n'ai pas dit que c'était héroïque, mais c'était facile. Et Dieu sait que la France l'a fait. Avec la crise que nous avons vécue, le franc n'aurait pas tenu. Ça, c'est clair. De la même manière qu'il y aurait eu la pesette n'aurait pas tenu, la lire italienne n'aurait pas tenu. Bon. Et donc, en même temps, on a eu, grâce à cette monnaie qui tient, on a une inflation qui n'est pas forte. On a, si vous voulez, des chocs qui ont été atténués par rapport à l'évolution du prix du pétrole. Voilà, donc l'Union européenne et autour d'elle la monnaie unique, c'est quelque chose qui nous protège. N'oubliez jamais que le fait d'avoir une monnaie unique nous empêche notre solution de facilité antérieure qui était la dévaluation de la monnaie. Alors quand vous n'avez pas de solution de facilité, vous avez une seule conséquence, c'est être meilleur. Et donc l'Union européenne, en quelque sorte, nous force à être meilleur. Elle ne l'a pas toujours dit. On a toujours pensé en France que le fait, par exemple, d'avoir une monnaie unique, ça ferait que quand on irait en Belgique, on n'aurait pas à changer. Vous voyez, ça, c'est une vision un peu restreinte des choses. En réalité, le fait d'avoir une monnaie unique fait que nous avons perdu, chaque pays a perdu son degré de liberté ou son degré de facilité. Ça conduit à ce qu'ensemble, on doit être plus efficace, plus fort. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'il n'est pas plus possible, me semble-t-il, de faire en sorte que l'euro est de fait la deuxième grande monnaie du monde. Mais il ne faut pas non plus que ce soit l'autre monnaie du monde, à savoir l'ajustement des États-Unis. Et ceci conduit toujours à ma litanie, si vous voulez, c'est qu'il faut que nous ayons une Europe puissante. Et une Europe puissante, ça veut dire qu'elle aurait une Europe puissance qui veut se développer. Et à l'intérieur de cette Europe puissance, il faut qu'il y ait une France puissance. Et cette France puissance, c'est une France qui a une stratégie, qui dit voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux être. Elle n'a pas à se macérer, à se flageller des erreurs qu'elle a faites, des limites qu'elle a, ça c'est clair. Il faut en même temps qu'elle dise clairement et courageusement en son sein, voilà nos forces, mais en même temps, voilà les ajustements que nous avons. Aujourd'hui, c'est la crise, ça c'est clair, mais aujourd'hui, c'est le moment où il faut changer. C'est même un peu tard, diront certains. On aurait pu le faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Mais en tout cas, c'est maintenant qu'on nous attend.
Mais alors justement, parce que vous parlez du changement, une des chances de la France, c'est probablement, en tout cas c'est ce que je crois comprendre dans vos propos, l'arrivée d'un président, d'avoir élu un président qui lui a clairement dit que sa vision, c'était celle du changement. Mais est-ce qu'en soi, simplement le fait de le déclarer dans une France qui a l'habitude de changer sans le dire, c'est vous-même qui le dites, on le fait sans le dire, est-ce que c'est pas justement une des sources de tension qui fait qu'on fait un pas en avant et quelquefois aussi un pas en arrière?
Vous avez raison, Mais le fait, c'est que quand vous faites sans dire, vous ne faites pas tout à fait. Vous en faites un peu moins. Et puis, arrive un moment donné, on dit « Ah, je vous ai vu, je vous ai repéré, c'est vous qui voulez bouger les choses. » Et hop, vous faites un petit peu de point en arrière. Donc, quand vous ne dites pas « Je veux faire des réformes », vous en ferez, en toute hypothèse, moins. La deuxième chose, c'est que quand vous faites des réformes, vous allez, à un moment donné, fabriquer la coalition de gens qui n'en veulent pas. Mais quand on ne veut pas faire des réformes, c'est toujours pour d'excellentes raisons. Vous savez, nous sommes, de ce point de vue-là, remarquables. Bon, donc, quand on veut revoir, par exemple, la carte judiciaire française, on va vous objecter qu'il faut être proche. Ah bon ? Quand on veut, de la même manière, quand on a voulu réduire, mais il y a pas mal de temps, le nombre d'agences de la Banque de France, on a voulu dire qu'il fallait aussi être proche. Quand il s'agit de changer peu, on a toujours d'excellentes raisons, entre parenthèses, parce que le changement est risqué. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'immobilisme est encore plus risqué. Et on voit bien ce que c'est que l'immobilisme. L'immobilisme, aujourd'hui, c'est moins de croissance et plus de dettes. Et donc, le prix de l'immobilisme est toujours très élevé et il est toujours plus tard et toujours à payer.
C'est-à-dire qu'on le paye longtemps.
Si on peut le payer. Tandis que, effectivement, la réaction, si vous voulez, au sens réactionnaire par rapport aux réformes, elle est toujours immédiate et vous avez toujours les défenseurs des avantages acquis qui sont là. Simplement, en économie, avantage acquis n'a pas de sens. Tout simplement parce qu'un avantage a été acquis. Ça, c'est ce que vous avez gagné l'année dernière. C'est le chiffre d'affaires que vous avez fait moins les frais. Donc, ça, c'est clair. Et c'est la valeur que vous avez ajoutée. Ça, c'est clair. Et donc, par rapport à ça, vous avez pu distribuer l'année dernière. Simplement, cette année-ci, je ne sais pas, moi, si ce que vous avez fait va plaire. Je ne sais pas, moi, s'il ne va pas y avoir un concurrent qui va apparaître. Donc, je sais ce que c'est que les avantages que vous avez acquis en liaison avec la valeur que vous avez ajoutée. Je ne sais pas ce que vous allez réussir l'année prochaine. Je ne sais pas si le modèle de voiture que vous lancez va plaire. Je ne sais pas si la campagne publicitaire va convaincre, etc. Donc, on est en permanence dans le domaine de l'incertitude. C'est pour ça qu'il nous faut de la souplesse pour essayer de comprendre et de s'adapter et faire en sorte que, entre autres, les gens bénéficient de la croissance. Et bénéficier de la croissance, c'est fondamentalement l'emploi. Mais en même temps, il faut qu'il y ait du salaire, ça c'est clair, et il faut qu'il y ait, mais quand vous avez de la croissance, quand vous avez de l'emploi, a priori vous avez du salaire, il faut qu'il y ait un deuxième élément qui apparaît, qui sera de plus en plus la participation. Et donc si vous avez une logique qui se remode, qui se reconstitue autour du pays et des territoires, avec l'emploi, la formation, des revenus et du pouvoir d'achat, et en même temps de la participation, je pense que vous avez quelque chose qui est extrêmement important. Mais n'oubliez jamais d'où on part. On part d'entreprises PME plus petites, plus fragiles et moins rentables.
Bien, avant de conclure, vous n'avez pas échappé à deux questions d'actualité. La première, c'est est-ce que les banques vont mieux, notamment les banques françaises ? Plutôt bien. Et puisque vous avez parlé de valeur ajoutée, peut-être un mot sur le rapport de Jean-Louis Cotis qui vient d'être remis au président de la République, donc sur le rééquilibrage, l'opportunité du rééquilibrage de la valeur ajoutée entre les salariés et les autres parties prenantes.
Alors sur les banques, il se trouve que les banques qui sont à l'origine de la crise, enfin le système américain, évidemment celui qui a le plus souffert. Ensuite, le système américain a vendu une certaine de ses produits toxiques et donc quelques acteurs économiques en ont évidemment souffert aussi. L'épicentre de la crise non pas porcine, mais de la crise des subprimes, c'est les États-Unis, mais ça a été ensuite bien réparti. Dans ce contexte, les banques européennes continentales sont moins atteintes et elles sont relativement moins atteintes quand elles ont une partie de banque de dépôt. Donc de banques commerciales classiques. Il se trouve que de ce point de vue-là, les banques françaises sont relativement moins affectées, les banques espagnoles aussi, et les banques italiennes aussi, tout simplement parce qu'elles sont relativement moins internationales et relativement plus dépôts. Dans cette situation-là, on voit que le crédit, la preuve en est, que le crédit se développe moins vite qu'avant, si vous voulez, mais il se développe. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas de crédit ? Je vous reconnais bien les banquiers parce que vous ne faites pas de crédit. Eh bien, la réponse est très simple, on nous en demande moins.
C'est ça, la demande est plus faible.
Bien sûr, c'est-à-dire que quand vous avez moitié moins de construction de maisons, vous avez moins de financement. Quand vous avez moitié moins de transactions, vous avez moins de crédit. Et quand vous avez une crise sur l'investissement, vous avez moins de crédit. Donc c'est la demande de crédit qui est aujourd'hui en jeu et qui fait qu'au fond, l'expansion du crédit est moins forte. Mais les banques, de ce point de vue-là, peuvent prendre le risque et peuvent faire le travail. La deuxième chose par rapport au rapport Cotis, il y a à l'heure actuelle, effectivement, en France, des interrogations sur le partage de la valeur ajoutée. Deux choses. Un, la progression de la valeur ajoutée a été ralentie en liaison avec le ralentissement de l'économie. Donc ça, c'est une conséquence. Et la deuxième chose, c'est que la répartition de la valeur ajoutée a été très différenciée. C'était déjà écrit dans mon livre avant que le rapport Cotis apparaisse, et ceci est parfaitement vérifier, oui. Il y a une partie de la valeur ajoutée, grosso modo, un tiers, qui est allé aux salaires les plus bas en France, c'est-à-dire le SMIC, qui est bas, mais enfin, qui est par rapport à d'autres pays assez élevé. Et deux tiers sont allés à une partie très minime de la population française, en liaison, grosso modo, avec ce qu'on appellera les traders, quoi. Et donc, il y a eu, en fait, une bipolarisation de la répartition, ce qui fait que le Français du milieu n'a pas vu grand-chose. Il a vu une partie aller, grosso modo, vers les salles de marché et une partie aller vers les 10% de la population qui sont aux revenus dits minimum, au salaire minimum, pas au RMI, au SMIC. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des interrogations. Mes sentiments, si vous voulez, mon sentiment, c'est qu'on ne se sort pas d'affaires simplement par des éléments sur la répartition, on s'en sort sur la production. Et je reviens, permettez-moi de me répéter, ce sont les PME, c'est la façon de permettre aux PME de gagner plus d'argent, avec l'idée que ces gains, ils doivent être répartis aux salariés, et donc il faut trouver des systèmes de répartition, en particulier pour les PME, et faire en sorte que, en quelque sorte, le fameux partage salaire-profit soit un mécanisme tel que, effectivement, les gens qui ont un salaire, à savoir les salariés, bien sûr, puissent avoir une partie du profit en liaison avec leur participation à l'entreprise. Ce sera plus risqué, ce sera plus immobilisé, mais à mon avis, ça marche mieux.
Eh bien, Jean-Paul Bettebèze, merci encore pour ce large tour d'horizon autour de la parution de votre livre chez PUF, Crise, une chance pour la France. Merci à vous et on espère vous retrouver bientôt sur notre antenne.
Un grand merci à vous.
Merci.